Bonjour, c'est Franck Ferrand. Vous aimez forcément les histoires, vous vous apprêtez à en écouter une. Eh bien, je voudrais vous parler d'un programme passionnant, La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels, la référence en la matière. On y évoque des bijoux de sentiment, de pouvoir, des joyaux mythiques, fascinants, romantiques, leurs secrets, leurs légendes. Découvrez l'histoire du grand diamant bleu de Louis XIV et celle des grilles de mariage de Rihanna. Pour sa 4e saison, La Voix des Bijoux s'intéresse aux liens tissés entre bijoux et bande dessinée. La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers, est disponible en français et en anglais sur toutes les plateformes.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
J'ai eu l'occasion déjà de vous raconter cette mort, une des plus navrantes de l'histoire de France, qui a eu lieu le 7 avril 1498. L'anecdote est célèbre, hein, le roi Charles VIII, qui a 27 ans seulement, se trouve à Amboise. Il s'élance à travers les corridors de son château pour se rendre à une partie de jeu de paume. Seulement en chemin, il ne prend pas garde à la hauteur d'une porte, une porte qui est particulièrement basse. Il se heurte la tête au cadre de la porte, au chambranle. Il est sonné, il poursuit son chemin. Et puis bientôt, l'hématome va se former. Et en pleine conversation avec des joueurs de paume, le roi s'effondre et meurt dès la nuit suivante. Triste nouvelle qui ne tarde pas à être portée d'Amboise à Blois, à une trentaine de nos kilomètres au nord-est. C'est là que se trouve le duc d'Orléans, le cousin du roi Charles, du roi défunt, cousin qui à 35 ans devient le nouveau roi de France, Louis XII. En soi, c'est un petit événement parce que, comme l'a fort bien noté Philippe de Comines dans ses mémoires, c'est la première fois depuis Philippe VI de Valois, en 1328, que la couronne ne se transmet pas de père en fils, et même en l'occurrence, on va carrément changer de branche dynastique. Ce n'est pas la seule chose qui rende cet événement stupéfiant, parce qu'à vrai dire, le nouveau souverain a bien failli ne jamais naître. Et oui, Louis XII est le fils d'un personnage de l'histoire qui aurait pu changer, dont le destin lui-même aurait pu tout changer. Si vous voulez, on peut remonter quelques 8 décennies en arrière, sous le règne de Charles VI, le roi fou. On est à l'aube d'un des événements clés de la guerre de Cent Ans, la bataille d'Azincourt. Le père du futur Louis XII, Charles d'Orléans, est alors un tout jeune prince de 20 ans. Il faut l'imaginer là, dans sa belle tenue, avec son armure rutilante, prêt à corriger une bonne fois pour toutes ces satanés anglais. Il l'ignore, Charles, mais sa vie va changer à jamais et l'avenir de la dynastie par la même occasion. Azincourt est quand même un terrible nom. Ce 25 octobre 1415, tout a l'air de bien se présenter. Pourtant, certains peuvent penser que l'armée des Valois, qui est absolument superbe, va littéralement balayer les troupes anglaises d'Henri V de Lancastre, qui ont osé lancer une attaque en Normandie en profitant des divisions en France. Shakespeare nous a très bien raconté ça dans sa pièce Henri V. Les chevaliers d'Ulysse semblent avoir dépassé leurs querelles internes pour une fois. Ils présentent un front uni, solide. Ils ont des armes absolument magnifiques et puis surtout ces armures qui paraissent propres à résister à tous les coups. Mais c'est précisément cet avantage, ce sont précisément ces armures qui, alors que la bataille commence, vont se révéler un terrible handicap. La campagne de l'Artois est détrempée en ce jour automnal, il y a de la boue, énormément de boue, et les chevaliers français, dont beaucoup ont dû mettre pied à terre, vont être gênés par le soleil, par leur équipement trop lourd, ils vont s'enfoncer dans cette fameuse boue. Chaque pas dans la terre visqueuse, poisseuse et collante les fatigue. Les Anglais les voient s'enfoncer dans ce sol ramolli et très vite, les archers anglais et les combattants légers, l'infanterie anglaise, vont pouvoir s'en donner à cœur joie et multiplier les captures. Les Français, qui sont, faut le dire, très très mal dirigés, voient la bataille se muer, non pas en une simple défaite, mais en un fiasco extraordinaire. Le naufrage de la chevalerie française. C'est Françoise Autran qui nous le dit. La fine fleur de la chevalerie française ne forme bientôt plus qu'un monceau de corps où se mêlent les morts, les mourants et les blessés. Autant dire qu'on va pouvoir en capturer beaucoup. Henri V d'Angleterre, qui craint une autre offensive, décide de faire exécuter la plupart des prisonniers, évidemment pas tous. Il y en a un notamment qui a été découvert coincé sous quelques dépouilles, mais qui est plutôt en bon état et qui pourrait avoir une grande valeur marchande, si je puis dire, car vous savez qu'on est à l'époque où l'on monnaie les otages. C'est Charles d'Orléans. Il aurait été dommage de le tuer, puisque, évidemment, il va pouvoir, lui, se monnayer extrêmement cher. On le relève couvert de terre, il est tout humilié. Ce neveu du roi de France, aux traits sans grâce, ce neveu réputé pour sa douceur, est le chef d'une des factions les plus importantes du royaume. Alors, on va mener le prestigieux prisonnier en face du roi d'Angleterre. Et Henri V le traite avec un mélange d'égard pour son rang et de condescendance pour la défaite dont il est d'une certaine manière l'incarnation. C'est Gérard de Senneville qui nous le raconte dans Les Quatre Frères d'Orléans. Il aurait lancé le roi d'Angleterre au duc d'Orléans. « Beau cousin, ne prenez souci. Je sais bien que si Dieu m'a fait grâce de gagner la bataille sur les Français, ce n'est pas que j'en sois digne, mais c'est qu'il a voulu les punir. Au fait, il n'y a pas à s'en étonner si ce qu'on me raconte est vrai. On dit que jamais il ne s'est vu tant de désordre, de volupté, de péché et de mauvais vices qu'on en voit aujourd'hui en France. » Charles incarne tout cela, il a conscience de la catastrophe qu'il est en train de vivre et dès novembre de cette terrible année 1415, Henri V va le faire monter sur un bateau pour l'envoyer en Angleterre et c'est par mauvais temps qu'il va s'éloigner du continent. Il voit s'éloigner la côte de ce pays, qui est son royaume. Charles n'a aucune idée du moment où il pourra revenir en terre de France, cette terre qu'il quitte en plein désarroi. Il laisse aussi sa femme, Bonne d'Armagnac, qui n'aura eu le temps de lui donner aucun descendant. Mais ce n'est pas là le plus urgent pour l'instant. Il s'agit de subir le triomphe vexant d'Henri V, parce qu'il faut vous dire qu'à Londres, les réjouissances sont interminables. Le chœur a cappella, Arcis Bourgogne, sous la direction de Mialysée, qui interprétait cette deuxième des trois chansons de Charles d'Orléans. Quand j'ai oui, le tambourin sonnait le la, quand j'ai oui, le tambourin sonnait pour s'en aller au mai, en mon lit, n'en ai fait affrais, ni levé mon chièvre du coussin. Et oui, le pauvre Charles d'Orléans est prisonnier maintenant. Il va falloir qu'il supporte. Enfin, quand je dis prisonnier, c'est un hôte d'État, bien entendu, mais il est coincé. Il est traité, certes, à la hauteur de son rang. Hein. On le loge à la Tour de Londres. Il est bien sûr surveillé, mais on lui laisse une certaine latitude pour passer le temps aussi agréablement que possible. Il fit venir d'Orléans, nous dit Gérard de Senneville, les objets indispensables à sa vie quotidienne. Vêtements, linge, tapisserie, garniture de lit, rasoirs, ciseaux, lancettes à saigner, jeux d'échecs et quelques livres. Des vins de Loire lui furent livrés régulièrement pour être servis à sa table. Mais comme le raconte notre auteur, néanmoins, l'éloignement du pays est terrible pour Charles. Bien sûr, il n'est pas coupé de ses fiefs. Il y a des messagers qui courent entre Londres et Orléans. Et pour les missives les plus délicates, il arrive qu'on fasse appel à un serviteur à quatre pattes dont la fourrure épaisse permet de dissimuler ce qui ne doit pas être lu par les Anglais. Mais néanmoins, c'est quand même très, très difficile d'attendre comme ça sans savoir si l'on pourra être libéré un jour. Est-ce qu'il peut espérer, Charles, être délivré rapidement ? Bien, pas vraiment. Les Anglais ne précisent pas quelle somme ils exigeraient en échange. La famille d'Orléans, pour tout vous dire, a d'autres difficultés à surmonter à ce moment-là, parce que la guerre est en train de continuer à déchirer le royaume de France. Et puis, surtout, pour Henri V, le fait de détenir le neveu du roi Valois, de détenir Charles d'Orléans, constitue un atout politique. Et c'est un atout qui, avec le temps, va encore se renforcer. En quelques années, plusieurs dauphins français vont mourir l'un après l'autre, si bien que le roi de France n'a plus qu'un fils, le dauphin Charles. Et encore, c'est ce fameux Charles dont sa mère elle-même, Isabeau de Bavière, a mis en doute la propre légitimité. Autrement dit, il n'est pas inenvisageable que Charles d'Orléans puisse un jour devenir roi de France. Henri V, de son côté, revendique ce trône des Valois. Il le revendique pour lui-même. Vous savez qu'il se fait appeler d'ailleurs roi d'Angleterre et de France. Il serait donc assez mal avisé de laisser repartir celui qui pourrait devenir un véritable concurrent, un rival sur le trône de France. Et ça, tout ça, se traduit par un resserrement de l'emprisonnement du prince, qui bientôt est relégué dans des châteaux à distance de Londres. On change les personnes chargées de le contrôler. On restreint les libertés dont il pouvait jusqu'alors jouir. Et dès lors, une question très concrète se pose pour lui. Et par les temps qui courent, certains d'entre vous vont comprendre cette question. Comment faire pour tuer le temps ? Charles va apporter à cette question lancinante une réponse qui pourrait nous inspirer aujourd'hui. Sans nier tout ce que sa situation a de dur pour lui, il se met en quête d'une forme de stimulation intellectuelle et même, je pourrais dire, de stimulation artistique. Il faut dire que ce prince peut exploiter un trésor qu'il possède en lui-même, l'excellente instruction qui lui a été prodiguée dans sa jeunesse. Je cite Bernard Quillet. Dès avant le début de 1404, donc à l'époque il avait une dizaine d'années seulement, un certain maître Nicolas Garbet, bachelier en théologie, avait commencé à lui révéler les règles de la grammaire latine, à lui faire réciter le sempiternel doctrinal d'Arnaud de Villeneuve et le Caton, à lui expliquer le théâtre de Terence, un peu de Cicéron, surtout Salluste. Pour se distraire, l'enfant avait le droit d'écouter de beaux récits tels que Perceval le Gallois, les histoires de Troie, les conquêtes d'Alexandre, le grand Ovide, la Bible bien sûr, les épîtres et évangiles que lui lisait en français sa mère, toujours très soucieuse de lui orner l'esprit et de l'entretenir dans des sentiments de piété. Voyez donc qu'il a fait ses humanités, comme on dit, ce jeune prince Charles. Et dans sa détention, cette très riche formation va se révéler quelque chose de très nourrissant, de très utile, une sorte de roc qui va lui constituer un socle auquel il s'accroche. Parmi ce que Charles a appris, il y a l'art de rimer, cette activité qui devient l'un de ses exutoires privilégiés. Il l'écrit d'ailleurs dans deux vers magnifiques, « De balader, j'ai beau plaisir », balader, c'est-à-dire rimer, hein, faire des poèmes, « De balader, j'ai beau plaisir, je suis privé d'autres plaisirs ». Eh oui, de là vont naître au fil des années des poèmes où il exprime parfois très directement ses émotions. C'est le cas de « En regardant vers le pays de France » où se déploie toute la douleur de l'exilé. « Alors changeaient en la nef d'espérance tous mes souhaits, en leur priant d'aller outre la mer sans faire demeurance et à France de me recommander. Or, nous donne Dieu bonne paix sans tarder. Adon aurait loisir, mais qu'ainsi soit, de voir France que mon cœur et mes doigts. Charles se voit peu à peu vieillir. Sa situation non seulement ne se débloque pas, mais a tendance à s'aggraver. Ni la mort d'Henri V à la fin de l'été 1422, ni le début du règne en France de son cousin et allié Charles VII, qui commence aussitôt, bien sûr, n'ont laissé entrevoir de véritables éclaircies. La domination des Anglais, alliée à ses vieux ennemis bourguignons sur le continent, inquiète le prince emprisonné, qui rime, mais dans une frustration de plus en plus intense. Encore Claude Debussy qui nous accompagne avec le cortège de sa petite suite. C'est un arrangement pour harpe interprété par la ravissante Elisabeth Hennen. Alors, évidemment, au début des années 1430, il y a toute l'épopée de Jeanne d'Arc qui pourrait donner un peu d'espoir à Charles d'Orléans, d'autant plus que Jeanne voudrait aller jusqu'à libérer Charles là-bas dans sa prison anglaise. Mais en vérité, tout ça ne reste qu'un espoir et la résistance psychologique du prince semble de plus en plus entamée. Il voudrait sa liberté, il réclame son pays, il attend son Val de Loire et se languit de sa famille. Gérard de Senneville nous dit, il n'avait plus qu'une obsession, sa libération, et ne voyait qu'un moyen d'y parvenir, la paix, au point qu'il n'éprouvait aucune satisfaction à entendre parler des succès militaires français, car en permettant à Charles VII d'être plus exigeant, les victoires françaises éloignaient en vérité l'espoir d'un compromis pour lui. En France, la roue tourne donc, et elle tourne sans lui. Charles apprend même le décès de sa femme, Bonne d'Armagnac. Ils auront vécu un mariage assez absurde, puisqu'ils ont été toujours séparés l'un de l'autre. Les sentiments du prince se révèlent dans ses vers. « Là, je suis seul, sans compagnie. Adieu, madame, ma liesse. Or est notre amour départi. Non, pourtant, je vous fais promesse que de prières à largesse morte vous servirez de cœur, sans oublier aucunement, et vous regretterez souvent en peine, soucis et douleurs. Vous connaissez aussi ma seule amour, si bien chanté par Laurent Voulzy. Je n'ai plus rien à me réconforter qu'un souvenir peut retenir liesse. » D'autres nouvelles sont certes un peu plus encourageantes. En 1433, voilà qu'on envoie à Charles de bonnes nouvelles. C'est à Calais qu'il va pouvoir se rendre. Donc il retraverse la Manche, Calais, où une conférence diplomatique doit avoir lieu. On imagine son émotion au moment de prendre la mer. Problème, la négociation se trouve annulée. Et Charles va devoir repartir. Il est complètement miné. Son désarroi le pousse à hasarder une tractation dont il faut bien le dire qu'elle est un petit peu pathétique avec le pouvoir anglais. Pour être libéré, il pourrait, si on le veut, soutenir les Lancastres dans leurs prétentions françaises et faire d'immenses concessions personnelles et même, pourquoi pas, abandonner sa bonne cité d'Orléans. Mais pour tout vous dire, même ces concessions un peu honteuses, et même carrément honteuses, ne vont pas aboutir. Il est clair que le sort du prince n'est pas entre ses mains. On pourrait se dire que c'est d'ailleurs un bonheur qu'elle ne le soit pas, parce qu'on voit un peu quelles auraient pu être les conséquences. Si Charles était destiné à finir sa vie en Angleterre, voilà la question qui se pose maintenant. Les années qui suivent, pour lui, vont être particulièrement cruel, avec des échecs qui se répètent. Charles est même conduit deux fois de plus sur le continent en vue d'une délivrance possible. Vous imaginez, à chaque fois, on lui fait miroiter ça, et à chaque fois, le sort s'acharne et rien ne se fait. Décidément, c'est terrible, sa situation. Pourtant, il y a quand même une double circonstance qui pourrait favoriser sa cause. C'est d'abord que maintenant, il est largement quadragénaire, donc beaucoup plus susceptible à l'époque de mourir brusquement. Et puis par ailleurs, Charles VII, le roi de France, a un fils qui atteint l'adolescence, ce qui réduit les chances du duc d'Orléans de monter sur le trône. Donc il devient un petit peu moins intéressant pour les Anglais, qui vont sans doute beaucoup moins tenir à lui. Ils vont d'ailleurs proposer un prix pour sa libération, mais un prix extrêmement élevé. Il n'empêche, c'est la liberté de ce prince emprisonné depuis trop longtemps qui est en question, et ça pourrait justifier une telle concession. Et voilà pourquoi, en novembre 1440, vous imaginez, je dis bien 1440, Charles va apprendre qu'on accepte de payer sa rançon. Il va pouvoir retrouver son royaume après un quart de siècle à avoir tourné en rond, si je puis dire, en Angleterre, et à avoir beaucoup baladé, c'est-à-dire avoir beaucoup rimé. Charles a donc survécu au combat d'Azincourt, il a survécu à l'humiliation, aux déceptions répétées, à l'ennui, au hasard des maladies, et puis maintenant, il est temps pour lui de reprendre le fil de sa vie, mais il a quand même 46 ans. Ça ne l'empêche pas de convoler en juste noce avec une princesse de 14 ans qui s'appelle Marie de Clèves. Aucun fils ne naît de cette union, en tout cas jusqu'en 1462. Maintenant, Charles a 67 ans. Imaginez un barbon grassouillé, un peu fragile, d'une laideur dont on dit qu'elle est assez repoussante, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un fils, un petit Louis. Il était temps parce que le vieux prince poète ne va mourir que 2 ans et demi plus tard. Eh bien, c'est ce petit Louis, né si tard dans la vie de son père, c'est cet enfant tardif et presque fortuit qui est destiné à devenir un jour de 1498, après la mort accidentelle du jeune Charles VIII, et faute d'héritier dans la branche aînée des Valois. Vous voyez que nous renouons la chaîne du temps, et voilà, je boucle la boucle commencée au début de cette émission. C'est ce petit Louis, né tellement tard dans la vie de son père, qui va devenir le roi de France, Louis XII. Que voulez-vous ? L'histoire prend parfois de sacrés détours. Nous allons faire un autre détour par un autre quartier de Paris pour aller y retrouver notre ami. Bonjour Christian Morin.
Bonjour mon cher Franck. Je vous écoutais avec passion ce matin parce que j'imaginais quand même cet homme restant prisonnier de guerre pendant 25 ans.
Eh oui.
Avec à la clé une rançon qui était quand même, je me suis renseigné depuis que vous m'aviez averti que vous alliez traiter ce sujet, de 220 000 écus. Je ne sais pas à quoi ça correspond aujourd'hui.
C'était une somme absolument gigantesque. Ça représenterait plusieurs dizaines de millions d'euros d'aujourd'hui.
Alors j'ai retrouvé un des textes qu'il avait fait qui collerait très bien avec le printemps, mon cher Franck. Le temps a lessié son manteau de vent, de froidure et de pluie, et s'est vêtu de brouderie, de soleil luisant, clair et beau. Il n'y a beste né oiseau quand son jargon ne chante ou crie. Le temps a lessié son manteau de vent, de froidure et de pluie. Voilà. C'est vrai que les rayons de soleil arrivent, mais il n'empêche qu'il faut rester confiné. Alors,
on peut dire de Charles d'Orléans qu'il aurait été un de nos premiers vrais et grands poètes. C'est assez étonnant et magnifique cette histoire.
Mais les textes sont superbes, hein, en vieux François, comme l'on dit.
Et vous savez que Laurent Voulzy leur a donné une nouvelle jeunesse. Hein, c'est extraordinaire ce qu'il en fait.
Oui, c'est ça qui est formidable d'ailleurs.
Dans toute la cathédrale, oui.
Exactement, une très très belle tournée d'ailleurs. On fait un petit clin d'œil à Laurent s'il nous écoute, j'espère. Et vous parliez tout à l'heure de ce désastre d'Azincourt, où donc Charles était fait prisonnier. Et en entendant ça, je pensais à Marignan, je pensais à la guerre de Cent Ans, je pensais à ces grands moments de l'histoire de France. Et je me disais quand même que ce sont des points de repère, et je voudrais en profiter, si vous le permettez, mon cher Franck, pour rappeler qu'il y a une opération avec le ministère de l'Éducation nationale à laquelle
oui,
vous êtes complètement partie prenante.
Mais oui, ça s'appelle Nation Apprenante. Il s'agit d'aider les parents à donner envie à leurs enfants. Alors en ce moment, de faire plutôt les devoirs de vacances, puisque pour une grande partie du territoire, les enfants sont en vacances de Pâques. Mais en tout cas, qu'il s'agisse d'aider, de se substituer aux professeurs ou d'aider les enfants à faire de leurs devoirs de vacances, c'est pas mal de leur laisser entendre de temps en temps quelques bonnes émissions de radio. En tout cas, des émissions qui leur donnent, j'espère, envie d'étudier. C'est ce que nous faisons, nous, tous les après-midi à 14h avec des rediffusions qui ont été choisies pour s'adapter au programme scolaire.
des écoles, des lycées et des collèges. Ben vous me ramenez quelques années en arrière. Moi, j'écoutais pour me parfaire en histoire, quand j'étais petit, les maîtres du mystère, la tribune de l'histoire plutôt, avec Alain Decaux et André Castelot.
Exactement.
Vos chers anciens.
Et oui, que j'écoutais moi aussi attentivement tous les samedis.
Voilà, on vous retrouve donc à 14h, comme vous le disiez à l'instant, et puis demain matin, dès 9h. Bonne journée, Franck.
Bonne journée à vous.